Un chiffre, 325 000 voitures électriques commandées en moins d'une semaine. C'est le record affiché par Tesla Motors, société californienne qui a dévoilé son nouveau modèle, le modèle 3, à 35 000 $. C'est un peu plus de 33 000 francs suisses, modèle d'entrée de gamme pour la marque. C'était il y a quelques jours. Et les acheteurs se sont donc précipités pour cette voiture qui ne sera pourtant livrée qu'à partir de 2017. Alors, question à propos de ce succès, est-ce qu'on va demain tous rouler à l'électricité? Pour en parler, nous recevons ce matin Thierry Chanard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé du bureau d'urbanisme GEA, spécialiste de la mobilité et des transports innovants. On est dans le cœur du sujet, transport innovant avec cette voiture. Comment vous expliquez cette ruée, 325 000 voitures commandées en moins d'une semaine? Alors, on reste à savoir encore si elles vont pouvoir être livrées à temps, parce qu'on sait que Tesla aura des problèmes de production. Mais c'est quand même la voiture électrique, un marché qui reste à la peine. Et là, quel succès? Comment comprenez-vous cela?
Je crois que Tesla a fait de grandes avancées dans la voiture électrique. Elon Musk est un personnage charismatique.
Qui est le fondateur, oui.
Voilà, c'est le fondateur de Tesla. Et Elon Musk, donc, a compris ce que c'était qu'une voiture électrique et qu'il fallait changer vraiment les modes de production des voitures. Donc, il s'est penché plutôt sur une voiture complètement conçue autour de la propulsion électrique. Puis à partir de là, il a démontré que c'était possible. Mais avec des produits, je dirais, plutôt élitistes, avec d'abord un Roadster, puis ensuite avec la Model S, qui fait pas mal le buzz d'ailleurs, parce que c'est une voiture qui a des performances absolument invraisemblables, mais qui a l'air d'être une berline, une voiture tout à fait standard, je dirais, gamme supérieure malgré tout. Et puis maintenant qu'il a fait cette démonstration, eh bien, il s'attaque à un marché beaucoup plus large en disant, vous voyez, je fais des produits de haute qualité, de haute gamme, ça marche bien. Et maintenant, ben, je vais élargir une production avec des véhicules beaucoup plus standards, milieu de gamme. Et puis, je vais déployer ça à travers le monde. Alors voilà, c'est sa grande ambition.
Alors, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a l'idée du haut de gamme lié à l'électrique, au fond. On avait un côté glamour dans ces Tesla Model S, je crois que vous l'avez dit, qui coûtent 80, 90 ou 100 000 dollars, qui vont très vite, qui ont beaucoup de chevaux, etc. Donc les gens, c'est un acte de désir aussi, pas seulement d'écologie, si je puis dire. Là, avec un modèle de moyen de gamme ou d'entrée de gamme à 30 000 dollars, c'est pas du tout le même créneau, c'est pas du tout le même pari. Qu'est-ce qui vous indiquerait que ça marche pour Tesla?
Alors, je ne sais pas si ça va marcher, hein, déjà. Ce qui me paraît important, c'est de voir comment il a procédé. C'est-à-dire que, de toute façon, le marché de la voiture électrique, on le sait depuis le début, c'est un marché de niche. Pour attaquer la commercialisation des voitures électriques, il faut commencer par une niche. On va pas généraliser la voiture électrique du jour au lendemain sur toute la planète. J'entends certains qui disent « Ah oui, bah, d'un seul coup, il faudra des centrales atomiques pour produire l'électricité qui sera consommée par les voitures électriques. » puisque Mais on va pas généraliser l'utilisation de la voiture électrique du jour au lendemain.
Mais d'ici quand, Thierry Chanard, quelles sont vos prédictions?
J'ai pas de prédictions. Je vois l'évolution des choses. Ça fait longtemps qu'on parle des voitures électriques. Moi, j'en entends parler depuis une bonne vingtaine d'années. Si vous vous souvenez, enfin, ceux qui s'en souviennent, en 1995, on faisait la promotion des voitures électriques en Suisse. Et tout le monde se lançait ou disait se lancer plutôt dans la voiture électrique. Je me rappelle de Renault, par exemple, oui, qui disait, voilà, l'avenir, c'est la voiture électrique. Ils ont rien fait. Ils font que de la communication. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chaînes de production de voitures thermiques qui doivent amortir. Puis passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que finalement, Toyota a eu le courage de se lancer dans la voiture hybride sur la base de chaînes, je dirais, thermiques. Mais c'était vraiment déjà un très grand pari, très risqué. Réussi d'ailleurs. Et puis maintenant, ben, il faut passer à une autre façon de procéder. On conçoit des voitures électriques autour de la propulsion électrique, donc c'est d'autres modes de production.
Si ça n'a pas marché autant qu'on l'avait prédit déjà il y a 20 ans, c'est parce que les marques, elles, n'en avaient pas envie. Au fond, il fallait qu'elles amortissent encore leur vieille chaîne de production. Et du côté du client, est-ce qu'il est prêt, selon vous, maintenant, à acheter une voiture électrique?
Il n'y a pas qu'une question d'amortissement. Je pense que le marché n'était pas prêt, simplement.
Donc, oui. La clientèle. Oui.
Alors voilà, maintenant, on amorce la clientèle en disant, voilà, les voitures électriques arrivent, c'est propre, c'est vertueux, etc. Donc, on attaque un marché de niche plutôt élitaire. Et puis, ça fait le buzz, hein, très clairement. Il y a pas de publicité, mais par contre, tout le monde en parle. Et puis, on démontre que c'est une voiture extraordinaire. Et puis, à partir de là, ça crée l'envie. Et l'envie se généralise. Et à ce moment-là, on peut démocratiser cette envie, et de faire en sorte que finalement, avec un produit moyen de gamme, on attaque alors un marché beaucoup plus vaste. Mais il a amorcé le marché avant, en ayant justement créé toute cette intention.
Et c'est ce que Tesla a réussi. Vous parlez d'Elon Musk, qui était une figure charismatique, hein, un peu controversée aussi. Certains disent que c'est le Steve Jobs de l'automobile. Vous êtes d'accord avec la comparaison ?
Oui, enfin, à partir du moment où vous êtes charismatique, vous allez vous comparer à tous les autres grands chefs d'entreprise charismatiques. Moi, je me limiterai pas à ce genre de comparaison.
Sur ce que Jobs a fait, alors sur au fond, sur sa réussite de l'ergonomie de ses produits, d'avoir, non pas inventé, parce qu'il a pas inventé grand-chose, mais d'avoir démocratisé la tablette, le smartphone, toutes ces choses-là. Est-ce que Musk est en train de faire la même chose avec la voiture électrique ?
Alors, je sais pas s'il fait exactement la même chose, c'est pas facilement comparable. Mais j'ai lu quelques articles sur Elon Musk versus Steve Jobs, et puis Musk se gossait de Jobs en disant que finalement Apple était un peu le cimetière de Tesla, parce qu'il prenait toutes les bonnes compétences de Silicon Valley d'abord chez Tesla avant de les laisser à Apple.
Voilà, il se tire un peu la bourre, si on dit ça familièrement. Mais au fond, si tout le monde se met à l'électrique, il faudra quand même qu'un jour on fasse tourner des centrales, non, Thierry Chanard ?
Pas nécessairement. On voit qu'on développe énormément des énergies alternatives, des énergies propres, renouvelables. Donc je pense que tout ça va dans le même mouvement, dans le même sens. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter par avance des incidences du développement, du déploiement de la voiture électrique, parce qu'en parallèle, justement, on déploie d'autres types de modes de production d'énergie.
Certains parlent déjà de la mort de la voiture à essence, sans parler du diesel, qui évidemment a subi un sacré coup de semonce avec l'affaire VW. La voiture à essence, moteur thermique, vous la voyez vivre encore combien de temps ?
Oh, pas mal de temps, je crois. Si on repasse dans le passé, parce qu'il faut toujours regarder un petit peu dans le passé les enseignements qu'on en tire. Mais je crois que 20 ans, hein, 1995-2015, 20 ans qu'on parle de la voiture électrique sans avoir fait quasiment un pas. Maintenant, on le fait, ce pas. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais voyez un petit peu la concurrence. Regardez les grands producteurs de voitures, les grands producteurs industriels, avant qu'ils se mettent au pas suivant. Regardez le temps déjà, observez le temps qui s'est passé entre la première Prius de Toyota et les premières hybrides chez les concurrents. Hein, il s'est passé près de 10 ans en tout cas. Donc en fait, c'est ça que j'observe, c'est que dans le fond, petit à petit, on va se mettre à d'autres modes de propulsion, parce que on n'a pas envie d'essuyer les plâtres. Donc c'est les autres qui vont le faire à votre place. Et puis après, on se rendra compte que finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un marché, parce que il y a aussi une question de concurrence, et on verra que probablement, ben, petit à petit, on se fait prendre des parts de marché, parce qu'on est un petit peu old-fashioned, on voit les choses par le passé, pas vers l'avenir.
On parle de voiture électrique, c'est un mode de propulsion, mais cela dit, est-ce que ça va changer les choses en termes de mobilité et d'urbanisme, qu'on ait une voiture électrique ou pas ? Je vous pose la question, j'ai absolument pas la réponse.
Absolument pas.
Rien.
Oui. À partir du moment où votre voiture est électrique, ça va rien changer si vous êtes toujours seul utilisateur de la voiture.
Ça encombrera toujours autant les rues.
Oui. Si ce n'est qu'elle peut être un tout petit peu plus petite, parce que la voiture électrique, on cherche à la rendre la plus compacte possible, parce qu'a priori, c'est une voiture urbaine, compte tenu de son autonomie qui est plus faible. Mais il y a beaucoup de voitures thermiques qui sont urbaines. Vous n'avez qu'à voir la Smart, elle est toute petite, et puis voilà, donc elle est très compacte. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est le partage de la mobilité, plutôt.
Oui, et ça, c'est un projet sur lequel vous planchez depuis de nombreuses années, Thierry Chanard, le partage de la mobilité avec des voitures qui feraient comme des trains,
hein, qui
s'accoupleraient. Et ça, c'est vous en êtes où de ce projet ?
Ce projet est en train de sortir d'usine, d'ailleurs, hein, puisque le cristal est en train d'être produit à l'usine de l'Or Industrie à Strasbourg. On l'a présenté, d'ailleurs, il y a 2 mois, en Suisse romande, pour la première fois. Il y a eu d'ailleurs un reportage sur votre radio là-dessus avec Dominique Chauffat.
Et qui est présente dans le studio, quelle coïncidence. Oui, on fait bien les choses,
voilà.
On est très cohérent.
Et donc les premiers véhicules dynamiques seront sortis en septembre 2016. Et puis à Strasbourg, on commencera par un premier convoi l'année prochaine. Et après, on ira à Montélimar. Je l'espère aussi à Lézin, parce que le cristal des neiges, ça sonne bien pour les skieurs. Et on ira aussi ailleurs, parce qu'on a intéressé beaucoup de collectivités qui nous ont demandé de nous pencher sur leur cas.
Il s'agit d'un transport public ou d'un transport individuel ?
C'est un transport individuel public qui est à capacité variable. Donc, il est aussi bien individuel que semi-collectif, parce qu'il peut se mettre en convoi, en navette.
Et dans les villes, votre solution est applicable dans toutes les villes ?
Oui, on a étudié beaucoup de villes aux configurations complètement différentes et on s'est rendu compte que finalement le cristal s'adapte à énormément de contextes. On a même découvert des capacités qu'on n'aurait pas imaginées au moment où on l'a conçu. Il y a 18 ans, vous imaginez, cristal a été conçu en Suisse, à Crissier, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle cristal. Ça veut dire Crissier transport à ré libre, voilà, c'est ça, c'est bien suisse. Et bien, ce véhicule... peut offrir toutes sortes de services de mobilité à la population. Ça va aussi bien au libre-service, du libre-service à la navette, jusqu'au taxi collectif, même le transport de biens. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi transporter des marchandises la nuit.
Quand on entend cette solution innovante, on se dit que l'innovation d'un Musk ou de Tesla est plus dans sa stratégie marketing, dans la vente d'un produit, dans la glamourisation d'une auto électrique que dans le produit lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition-là ?
Elle n'est pas inintéressante, hein, parce que vous savez ce que coûte la publicité, hein, ça coûte vraiment très très cher. Et là, il utilise parfaitement les médias.
Le bouche à oreille, quoi. Hein, ils font très peu de pubs, ouais.
Oui.
Le viral.
Il offre des essais à tout le monde. Moi, j'ai été le premier à être tenté par des essais. Oui, je l'ai essayé même plusieurs fois sous plusieurs déclinaisons. Puis voilà, ça marche bien. C'est une voiture extraordinaire. Donc, je suis en train d'en parler. Tout le monde va se dire, bah tiens, c'est intéressant.
Donc, au fond, c'est un produit marketing. Il va en vendre quelques milliers, quelques centaines de milliers. Puis, dans quelques années, peut-être que le charme rompra.
Peut-être. Mais je ne crois pas que ce soit sa niche et son objectif. Il a d'autres objectifs, Elon Musk. Il est plus astucieux que ça. Il est en train de construire une méga factory qui va produire des batteries à l'échelle industrielle, puisque vous le savez, le prix de la batterie est vraiment le handicap de la voiture électrique. Et c'est ça son enjeu, à mon avis. Parce qu'il est en train d'ouvrir un marché colossal sur la démocratisation de la voiture, sur la démocratisation de l'utilisation des batteries lithium-ion, qui est la technologie qu'il essaye de développer, et de faire en sorte que ce soit là, finalement, qu'il fasse du profit.
Oui, on vous évoquait la Smart tout à l'heure. Si on se penche un peu sur l'histoire, c'était dans les années 90, elle s'appelait pas Smart, elle s'appelait Swatch Mobile. On se souvient encore de Nicolas Hayek, passionné sur notre antenne, essayant de vendre cette idée qui était d'abord une idée issue de ses bureaux de recherche, puis qui a ensuite été piquée par Mercedes. C'était une voiture électrique à la base, hein.
Et puis
ensuite, c'est devenu une voiture essence. On a complètement foiré le projet, non ? On a raté le coche, là ? Je dis on, la Suisse, Swatch ?
C'est difficile à dire, hein. Je sais pas, c'était peut-être pas la bonne porte d'entrée, c'était peut-être pas le bon moment. Vous savez, l'innovation, c'est compliqué, hein.
Avez la formule, vous, de l'innovation, Thierry Chanard ?
La formule de l'innovation ?
Oui.
On n'innove pas plusieurs fois à la fois.
Pas plus d'une innovation à la fois, c'est
oui,
ça ?
Oui, parce que si vous voulez projeter les gens dans un avenir dont vous rêvez, il faut les emmener d'abord depuis là où ils sont, par la main.
J'aime bien cette définition. Bon, l'avenir, tiens, c'est l'hydrogène. Dominique Chauffat, je ne vous la présente pas. Elle est dans le studio, tout comme Esther Coco. Elle lise la presse. Donc, l'avenir, c'est l'hydrogène. Parole d'Olivier Lombard, qui l'affirme dans le Nouvelliste ce matin. Ce jeune Parisien, Dominique, partage sa carrière entre une voiture thermique en championnat d'Europe et un prototype à hydrogène.
Il s'agit du premier prototype de compétition électrique hydrogène, un prototype créé dans le cadre d'un programme de développement. Et Olivier Lombard, qui n'est pas un inconnu, il a gagné les 24 heures du Mans tout de même. Olivier Lombard est convaincu qu'on assistera un jour à une course avec uniquement ce type de véhicule, d'autant plus que l'hydrogène permettrait de mettre sur pied des courses bien plus longues que celles qui se font dans le cadre du championnat du monde de formule électrique, la Formule E. Et l'objectif des ingénieurs, la prochaine étape, c'est qu'une voiture à hydrogène puisse un jour battre une voiture à essence dans le cadre d'une compétition.
Bon, là, on n'est pas dans la voiture de monsieur tout le monde. Cela dit, il existe des prototypes à hydrogène qui circulent dans nos villes, même plus que cela. Il y a une petite flotte. Est-ce que ça, c'est l'avenir, Thierry Chanard ?
C'est une piste. Voilà, il y a beaucoup de pistes. Je crois qu'on doit tester, on doit développer, on doit essayer de voir comment le marché réagit à ces différentes technologies aussi, parce qu'il y a des difficultés techniques, il y a des difficultés aussi de production, de distribution. C'est tout ça, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'investissement. Si vous regardez Musk, ce qu'il a fait pour justement déployer ses véhicules à travers l'Europe avec des superchargeurs qui sont dispersés partout en Europe.
C'est des pompes à essence électrique, hein, c'est ça, les superchargeurs.
Des super pompes qui sont très très rapides, qui permettent de recharger une voiture en 40 minutes. Vous imaginez la puissance qu'il faut, et c'est gratuit. Vous imaginez l'investissement qu'il faut consentir pour faire en sorte que ça se développe. Donc ce sont des énormes efforts, des énormes investissements, et avant que tout ça arrive, eh bien, il va se passer encore un certain temps. La pile à combustible, on en parle depuis une vingtaine d'années, et puis je crois, bon, maintenant la technologie est assez au point, il va falloir aussi la démocratiser.
Mais est-ce que tout ça, au fond, ne sont pas des stratégies de vendeurs de voitures, vieille industrie, l'automobile? Pour continuer d'en vendre, on met un peu d'électrique, on met un peu d'hydrogène, on met un peu de ci et de ça, on downsize, comme on dit, c'est-à-dire qu'on réduit la taille des moteurs, on a des normes de plus en plus draconiennes. Est-ce que c'est pas le champ du cygne d'une industrie en train de mourir, tout ça?
C'est plutôt le champ du cygne d'une industrie en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement qui doit s'arrêter et se réorienter. En tout cas, pas forcément s'arrêter, mais en tout cas se réorienter en disant, voilà, on a des chaînes de production, il faut les amortir, ça coûte énormément d'argent, tout ça. Et donc, voilà, maintenant, on commence à rentrer de nouvelles technologies. C'est pour ça que l'hybridation est intéressante, parce que on peut plus facilement combiner dans une chaîne de production thermique une addition d'un système de propulsion et de stockage d'énergie. Par contre, quand on se met dans une nouvelle chaîne de production, ben on change du tout au tout, vous imaginez bien. Mais on a quand même la force de production de l'industriel et la connaissance de l'industriel de l'automobile, parce que l'automobile, c'est quand même tout un savoir-faire. Il y a l'ergonomie, il y a l'usager qui est dedans, et là, je crois qu'il est bien capté par toutes ces marques. Donc, je pense qu'elles vont évoluer plutôt.
Capté, ouais. On est parfois captif aussi de tout cela. Vous êtes donc architecte, directeur associé d'un bureau d'urbanisme, Thierry Chanard. On va parler aménagement du territoire maintenant, un projet de loi pour la protection des biotopes et des marécages. On quitte l'automobile, qui provoque une véritable levée de boucliers.
Des gouvernements cantonaux, des parlements cantonaux s'y opposent, et surtout l'association des communes de Suisse. Celle-ci n'exige rien de moins que l'interruption de l'ensemble du projet, car le département de l'environnement a mis en consultation une liste de marécages, de mares permettant la reproduction des amphibiens ou de prés sauvages qui devraient être considérés comme biotopes d'intérêt national. Plus de 22 000 hectares s'ajoutent aux 81 000 hectares déjà protégés. Les communes de montagne s'inquiètent des conséquences économiques d'une telle étendue des zones de protection, notamment sur le tourisme. Les Grisons et l'Oberland bernois sont les opposants les plus virulents. Il faut dire que des zones à construire pourraient devenir zones protégées. Mais le directeur de la Fondation pour la protection du paysage voit dans ce conflit avant tout un problème de communication. Selon lui, la Confédération a fait l'erreur de ne pas intégrer les communes dès le début du projet, dès la définition de ces zones protégées. Le dernier mot reviendra au Conseil fédéral.
Bon, c'est peut-être un problème de communication. Reste le problème de fond. Est-ce qu'il faut encore intégrer plus de zones à protéger sur le territoire suisse qui est déjà un peu restreint? Quelle est la vision de l'urbaniste Thierry Chanard?
C'est pas un problème quantitatif, je crois que c'est un problème qualitatif. Et puis évidemment, chacun défend son pré carré, si je puis dire. Là, on a une loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui vise à redimensionner les zones à bâtir, parce que, comme vous le savez, les zones à bâtir ont trop de potentiel de développement, et puis on essaye de concentrer la pression humaine vers l'intérieur. Donc à partir de là, c'est clair qu'on se pose la question de savoir comment on va réaffecter ces nouvelles zones, puisque c'est des anciennes zones constructibles. Puis au milieu de tout ça, il y a des valeurs naturelles aussi, des valeurs paysagères, il y a des valeurs patrimoniales qui s'inscrivent. Et à partir de là, eh bien, on doit trouver le bon équilibre entre tout ça. Le problème, c'est que c'est porté par des gens qui défendent leur pré carré, et donc ils essayent de mettre la pression maximale pour obtenir, je dirais, quelque chose. Et j'ai un peu peur de l'addition de toutes ces demandes, parce que finalement, on ne fait que ajouter de la pression sur les autorités qui doivent faire un effort colossal sur le redimensionnement de leur zone à bâtir. Et à partir de là, c'est compliqué, parce que finalement, on doit aussi vivre avec les gens qui sont propriétaires de ces terrains. Il faut voir comment ils reçoivent ces nouvelles dispositions et ces nouvelles contraintes. Donc je crois qu'il faut raison garder dans toutes ces démarches. Il faut prendre du temps parce que le territoire se construit avec le temps et nous devons aussi ne pas nous précipiter dans l'accumulation de contraintes qui vont finalement être plutôt contre-productives.
Alors, un sujet qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de dire, la pénurie de logements dans le canton de Vaud, qui anime les passions, ça c'est à lire dans 24 heures, Dominique Chauffin.
Le Conseil d'État va présenter un compromis au Grand Conseil vaudois. Il faut dire que les coups de griffe se sont multipliés sur ce dossier. Alors, le Conseil d'État veut calmer le jeu. Il propose d'une part d'assouplir les règles qui autorisent les propriétaires à transformer leurs immeubles et d'autre part, il veut faciliter les nouvelles constructions avec un droit de préemption pour les collectivités publiques. Elle pourrait donc acheter certains biens en priorité. Et c'est ce point qui fait le plus réagir, notamment chez les professionnels de l'immobilier.
Et chez les professionnels de l'architecture, Thierry Chanard, qu'est-ce que vous pensez, assouplir les règles pour que les propriétaires puissent transformer leurs immeubles? Le droit de préemption, on en a déjà parlé, ce sont de bonnes pistes à suivre?
Ce sont des pistes à suivre comme d'autres. Nous, on s'occupe beaucoup de réhabilitation d'anciens quartiers d'habitation collective des années 60 pour essayer de faire en sorte qu'on continue de densifier vers l'intérieur, mais en même temps qu'on réhabilite les aménagements extérieurs qui, vous le savez, étaient largement dévolus à la voiture, donc qui occupent tout l'espace. On essaye de verdifier, si vous me passez cette expression, ces différents quartiers, de faire en sorte qu'on prennent cette contrainte de densification et qu'on la transforme en opportunité d'aménagement et de valorisation de quartier, de rénovation. Donc ça, ce sont des pistes intéressantes, si ce n'est que c'est pas simple. Il faut aussi penser qu'il y a des gens qui vivent à l'intérieur de ces immeubles et que transformer, sans les mettre de côté, c'est compliqué. Donc il y a des lois aussi sur les baux. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment très compliqué. On essaye de travailler sur différentes pistes, mais j'aimerais juste dire une chose. On a environ, en ce moment, des projets de développement de plans de quartier juste pour l'agglomération lausannoise, pour environ plus de 100 000 nouveaux habitants. Donc 100 000 nouveaux habitants déjà dans le pipeline, comme on dit. Je pense que le gros problème, c'est le temps. Le temps qu'on met pour planifier tout cela et pour obtenir des permis de construire une fois qu'on aura fait ces planifications.
Trop de tracasserie, trop d'administration.
Je vous donne un exemple. Le quartier de la Tour de Chavannes au Cèdre, que je connais bien, il a mis 23 ans pour être légalisé.
Donc c'est un système un tout petit peu trop tortueux, à vos yeux, oui.
Trop compliqué. Trop de démocratie tue la démocratie parfois.
Parole d'architecte et d'urbaniste. Merci beaucoup Thierry Chanard. Bonne journée.
Bonne journée à vous.